100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, hausse des prix, inflation, récession. Les pays européens tentent tous d'enrayer cette spirale. L'Espagne a choisi une option assez radicale depuis le 1er janvier et pour 6 mois. La TVA baisse, voire disparaît complètement sur les aliments de première nécessité. À côté d'une aide de 200 euros pour les familles dont les revenus ne dépassent pas 27 000 euros par an, cette politique coûteuse pour l'État cherche à compenser la hausse de l'inflation qui frôle les 15% en Espagne. Les explications de Diane Cambon à Madrid.
Le panier de la ménagère espagnole va coûter moins cher jusqu'au mois de mai prochain. La TVA, qui a un taux de 4% pour les produits de première nécessité, disparaît. Sont concernés les vivres comme le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes et les farines. L'huile et les pâtes, taxées à 10%, le seront à 5% pendant la même période. Cette mesure, annoncée en grande pompe quelques jours après les fêtes de Noël, cherche à compenser la hausse des prix au cours de l'année dernière, qui pour certains aliments se situe bien au-dessus de l'inflation de 15%. Ainsi, le prix de l'huile avait atteint 26% de plus en novembre par rapport à 2021. C'est le cas également du lait, dont le prix avait grimpé à plus de 31%. Cette mesure a été accueillie avec enthousiasme par les consommateurs, notamment les ménages les plus modestes, dont le salaire minimum est de 1 400 euros mensuels. Mais des économistes redoutent que certains industriels de l'agroalimentaire profitent de cette ristourne pour augmenter les prix. Le gouvernement a appelé à la responsabilité des industriels et a déjà prévu qu'ils sanctionneraient les abus. Politiquement, la mesure du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez est aussi risquée, d'autant que des élections régionales et municipales sont prévues au printemps. Dans 6 mois, il faudra expliquer aux Espagnols le retour de la TVA, alors que rien ne garantit que l'économie et la croissance s'améliorent. This is Sweden, rulla med två brudar i bilen.
This is Sweden, madame a cleaver for no reason. On a de la Suède l'image d'un royaume prospère où l'État-providence généreux pourvoit aux besoins de tous. Or, ces dernières années, les inégalités dans ce pays du nord de l'Europe ont explosé. Les aides sociales ont été rognées et avec l'inflation actuelle, de plus en plus de personnes ont du mal à remplir leur frigo. À Stockholm, depuis 7 ans, une chaîne de supermarchés solidaires récupère les surplus et invendus des grandes enseignes pour les vendre à des tout petits prix. Et elle voit de plus en plus de monde affluer. Reportage de Carlotta Morteo.
Les œufs et le papier toilette, c'est un paquet par personne, pas plus, rappelle Victor dans son t-shirt jaune floqué Matt Missionen. Il ne fait entrer que 25 personnes toutes les 15 minutes, sinon c'est la couille.
Pour les produits les plus attractifs, nous devons réguler, surtout quand les gens arrivent dès l'ouverture, pour être sûr qu'il y en ait pour tout le monde.
Ici, rien n'est gratuit, il n'y a pas beaucoup de variété dans les produits, les dates de péremption sont proches, il faut donc s'adapter, mais tout est très, très abordable.
On a certains types de fruits et légumes. Les produits sont différents tous les jours, en fait. On est à court de potiron, mais il reste du fenouil, des concombres et du brocoli. Aujourd'hui, on a aussi des poulets entiers à 1 euro.
1 euro pour les membres, c'est-à-dire la très grande majorité des clients qui ont dû démontrer d'avoir des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois. Ils ont 70% de réduction sur le prix affiché, jusqu'à 30 euros d'achat par semaine. Au-delà, il paye le prix de base, lui aussi bien plus bas qu'ailleurs. 3,30€ pour ce poulet, par exemple. Gunilla a un petit chômage. Elle fait ses courses ici depuis 6 mois.
C'est simple, Matt Missionen m'aide à survivre parce que les prix sont si bas qu'à la fin du mois, il me reste peu d'argent pour faire autre chose que juste payer mon loyer et manger. Sinon, je ne peux rien faire de plus. J'ai parlé de Matt Missionen à ma fille qui a 22 ans et ne travaille qu'à mi-temps. On gagne en qualité de vie quand on peut faire ses courses sans dépenser tout son argent. Everything that you
have, actually. Avec l'inflation, les prix de l'alimentation ont augmenté de 18% en un an, 25% pour la viande et les fromages. Des produits qui ne sont pas laissés en libre-service pour éviter qu'ils ne soient raflés. C'est Marina qui distribue ses denrées chères ou rares depuis son comptoir.
On ne reçoit pas beaucoup de café ou de fromage, par exemple, donc ce doit être réparti de manière juste. Parmi ces produits qu'on peut appeler des produits de luxe, il faut choisir un produit alimentaire et un produit d'hygiène. Parce que la valeur centrale ici, c'est l'équité. Cet argument, tout le monde le comprend.
Fondé en 2015, Matmissionen est le premier supermarché du genre à avoir ouvert en Suède. Johan Rindeval est le gérant de ce magasin qui ne désemplit pas.
L'an dernier, nous avions 7000 membres et aujourd'hui, on en compte 15000, donc c'est plus du double en une année. On a aussi beaucoup plus de gens qui ont un revenu qui ne leur permet pas d'être membres, mais qui viennent et nous demandent de l'aide.
Au total, 25 000 personnes fréquentent les deux magasins de Stockholm. Vu le contexte, Matmissionen, qui n'arrive déjà pas à répondre à la demande, va ouvrir 5 nouveaux points de vente en 2023 dans la capitale, à Göteborg et à Malmö.
On a clairement un problème de pauvreté en Suède, dont on ne parle pas autant qu'ailleurs. Si on regarde la dernière fois que l'inflation était aussi élevée, dans les années 1990, il y avait alors 7% des gens qui vivaient dans une relative pauvreté en Suède, c'est-à-dire qui vivaient avec moins de 60% du revenu médian. Maintenant, ils sont 14%, donc ça a doublé en 30 ans, et on n'a toujours pas l'habitude d'en parler. C'est un peu un stigmate, un tabou. D'ailleurs, il y a des gens qui font leurs courses ici et qui ne veulent pas que ça se sache. Donc ils ne veulent pas de sac avec écrit « Matmissionen » dessus, par exemple.
La paupérisation avance à bas bruit en Suède. Sans renier sa vocation sociale, Matmissionen met en avant sa philosophie anti-gaspillage. Il est le principal allié des hypermarchés dont l'objectif est de réduire de moitié leurs invendus qui finissent autrement à la poubelle.
La Grèce, comme l'Espagne, font partie des pays où l'inflation s'est envolée ces derniers mois pour atteindre 12% en septembre dernier avant de se stabiliser à 9% en fin d'année. Face à cette hausse des prix, Athènes a annoncé mi-décembre un remboursement par l'État d'une petite partie des achats alimentaires pour les ménages modestes, le tout pour une durée de 6 mois. Joël Brunner, vous êtes notre correspondant à Athènes. En quoi consiste précisément cette mesure et à qui s'adresse-t-elle ?
Boulangerie, épicerie, boucherie, poissonnerie, commerce de bouche au sens large. À partir du mois de février et jusqu'à cet été, l'État grec devrait en effet prendre en charge 10% des achats des foyers modestes dans une certaine limite. Concrètement, une personne seule pourrait ainsi se voir rembourser 10% d'un maximum de 220 euros par mois, soit 22 euros. Puis 10 euros potentiels de plus pour chaque membre supplémentaire de sa famille. Résultat, un couple seul pourrait économiser un peu moins de 200 euros en 6 mois, tandis qu'un couple avec 2 enfants pourrait en économiser un peu plus de 300. Au total, ce coup de pouce s'élèverait selon l'État grec à 650 millions d'euros, une somme issue d'une taxe sur les revenus excédentaires de 2 raffineries de pétrole grec. Pourront par exemple bénéficier de cette aide les couples dont les revenus n'excèdent pas 24 000 euros par an.
Cette nouvelle mesure, Joël, vient s'ajouter à d'autres formes de soutien déjà mises en place par Athènes contre l'inflation.
Tout à fait. Le Premier ministre grec a annoncé avant le vote du budget 2023 que cette subvention irait de pair avec le maintien d'aides de l'État déjà existantes. 8 milliards d'euros devraient ainsi être alloués ces prochains mois pour offrir des factures d'électricité et de gaz naturel réduites aux consommateurs grecs. Et ce, malgré la forte inflation en cours sur les prix de l'énergie, plus de 50% d'augmentation sur un an en septembre pour l'électricité, par exemple. En parallèle, Athènes impose aussi depuis novembre aux supermarchés, sous peine d'amende, de limiter au maximum l'augmentation du prix d'une cinquantaine de produits du quotidien. Mais malgré le volontarisme affiché, ces mesures sont présentées comme éphémères et ne semblent donc pas remédier en profondeur au problème de l'inflation et à la précarité qui frappe un pays déjà durement éprouvé par une décennie de crise financière. Le site d'opposition en langue anglaise Keep Talking Greece parle ainsi à propos du remboursement d'une petite partie des dépenses alimentaires d'une aspirine face à une migraine financière incessante. Autre question, qu'adviendra-t-il de toutes ces mesures une fois franchi le cap électoral en Grèce l'été prochain ? Pour l'instant, cette question reste sans réponse.
Merci Joël Brunner, à bientôt. Comment se passer du charbon pour produire de l'électricité. En Allemagne, l'installation de panneaux photovoltaïques a augmenté de 30% en 2022. Mais dans le même temps, la transformation des mines de charbon est plus lente que prévu. L'objectif, c'est de sortir de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2038 au plus tard. Mais la transformation des dernières mines de lignite se révèle compliquée, avec des enjeux économiques bien sûr, mais aussi sociaux et environnementaux. Reportage de Wilhelm Munoz-Boileau dans le bassin minier de Lusace, dans l'est de l'Allemagne, le long de la frontière germano-polonaise.
D'ici, vous pouvez voir les mines de charbon à ciel ouvert de Jansfalde, Norten, Reichwalde et Welzhaus. Elles fonctionnent encore 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Jörg Albrecht est guide touristique et membre de l'association de tourisme minier Excursio qui organise presque quotidiennement des visites guidées dans ce bassin minier, l'un des derniers sites d'extraction du lignite d'Allemagne, situé à 150 km au sud-est de Berlin, à la frontière germano-polonaise.
Beaucoup de gens se disent que c'est leur dernière chance de visiter une mine de charbon à ciel ouvert avant sa fermeture.
Pourtant ici, le paysage a déjà commencé à changer. Devant nous, une autre mine à ciel ouvert qui a fermé en 2016 est déjà partiellement inondée. Elle est le premier élément de ce qui doit devenir le plus grand lac artificiel d'Allemagne, le Kottbusser Ostsee, qui sera formé d'une partie des mines qui auront été inondées. L'objectif des autorités est de transformer ce paysage industriel utilitaire en un paysage touristique à fort potentiel économique. Les mines qui ne seront pas inondées seront quant à elles utilisées pour produire de l'énergie verte. C'est ce que nous explique Stéphane Korb, chargé du changement structurel à la mairie de Cottbus, la principale ville de la région.
Vu que la région s'y connaît en production d'énergie, ça va rester l'élément central de notre économie. Sauf qu'à la place du charbon, on va miser sur l'hydrogène vert produit à partir d'éoliennes et de panneaux solaires. On pourra ainsi continuer à produire de l'électricité qui alimentera les centrales électriques existantes, ce qui nous permettra de maintenir les emplois dans ces centrales. Et les autres suppressions d'emplois liées au charbon seront compensées par des créations d'emplois dans la recherche et le développement.
Pour financer ces projets et aider les bassins miniers allemands à se passer du charbon, l'État allemand a prévu une enveloppe de 40 milliards d'euros, dont 17 milliards pour la Lusace. Théoriquement, tous les acteurs régionaux peuvent prétendre à ces fonds, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Welzhaus, petite ville minière de 3400 habitants, est située à deux pas de la mine à ciel ouvert de Welzhaus-Sud que l'on a aperçue un peu plus tôt lors de la visite guidée.
Je m'appelle Birgit Zuhold et je suis maire de Welzhaus depuis 2009. Le budget pour se passer du charbon est conséquent, mais en tant que petite commune, on a du mal à en bénéficier. Jusqu'à présent, toutes nos propositions de projet ont été rejetées. Visiblement, il n'était pas finançable. Le problème, c'est qu'à la mairie, nous sommes une petite équipe de 15 employés dont la moitié travaille à mi-temps et nous n'avons pas les moyens d'employer du personnel supplémentaire pour s'occuper exclusivement des demandes de subventions.
Et la petite ville de Welzhaus n'est pas un cas isolé. Certaines communes ont un budget tellement serré qu'elles ne peuvent tout simplement pas accéder à ces subventions car elles ne peuvent pas verser les 5 à 20% d'apports exigés pour en bénéficier, et ce, alors que ce sont ces petites communes qui ont le plus besoin de cet accompagnement financier. Cela crée donc un déséquilibre, non seulement entre les villes, mais aussi entre les populations urbaines et rurales. À ces défis socio-économiques s'ajoute le défi écologique. Pour en parler, nous retrouvons Anne-Laure Vautque, membre de l'association Alliance pour Welzhaus, qui défend un juste équilibre entre les habitants, la nature et les entreprises minières opérant dans la zone. Cette native de la région nous a donné rendez-vous à 5 km de Welzhaus, à Geisendorf. En 2001, ce village a été rasé. Ses habitants ont dû être relogés plus loin pour permettre à la mine de charbon de Welzhaus-Sud de s'agrandir. Une fois l'exploitation terminée, l'entreprise minière a revégétalisé la zone pour la remettre en état comme la loi l'y oblige. Mais 18 ans plus tard, la revégétalisation est un échec.
Comme vous le voyez, rien ne pousse ici, à part de l'herbe grisâtre, dure et coupante comme une lame de couteau. Le bétail ne peut même pas s'en nourrir, ça risquerait de leur couper la langue. Ce n'est donc bon ni pour l'agriculture, ni pour l'élevage. On nous parle de revégétalisation parce que ça sonne bien, ça permet de rassurer les citoyens, mais ça ne fonctionne pas.
L'alternative, c'est la transformation des anciennes mines à ciel ouvert en lacs, mais là encore, c'est plus compliqué que cela, estime Anne-Laure Vautque.
Pour l'entreprise minière, ça coûte moins cher que de revégétaliser parce que le trou existe déjà, il n'y a plus qu'à le remplir d'eau. Mais on n'a déjà plus d'eau en Lusace.
Le remplissage du Côte d'Ossa Ose a d'ailleurs dû être stoppé à plusieurs reprises en raison de la sécheresse et du manque d'eau. À cela s'ajoute la pollution. Une étude réalisée en 2019 par l'Agence fédérale allemande pour l'environnement a montré que la mise en eau des sols asséchés par l'exploitation minière entraînait une contamination par le sulfate et l'hydroxyde de fer, rendant les lacs parfois si acides que seules quelques espèces peuvent y survivre. On est donc loin de l'image de paysage touristique idyllique. Pour l'heure, c'est pourtant cette solution qui a été retenue par l'État allemand pour transformer les dernières mines de charbon à ciel ouvert de l'USAS.
L'offensive russe, lancée il y a maintenant plus de 10 mois, a plongé le vieux continent dans une situation qu'il pensait ne plus jamais connaître après la construction de l'Union européenne. Les velléités impérialistes de Vladimir Poutine, qui estime que l'Ukraine fait partie intégrante de la Russie, comme au temps de l'Union soviétique, ont provoqué l'isolement de son pays sur la scène internationale et pourraient bien marquer la fin du règne du président russe. Son portrait par Romain Le Maresquier.
En 2007, alors qu'il achevait son deuxième mandat à la tête de la Russie, Vladimir Poutine était désigné personnalité de l'année par le magazine américain Time. Depuis, l'homme a, semble-t-il, bien changé, ou tout du moins, comme l'explique Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po Paris, ses ambitions sont désormais plus claires après le lancement de cette opération spéciale en Ukraine.
Vladimir Poutine veut annuler les effets négatifs de la disparition de l'URSS en 1991. Et c'est la logique principale de cette invasion, reconstituer la zone d'influence russe et la zone d'influence post-soviétique en Europe.
Si le monde semblait il y a quelques mois étonné par l'invasion russe en Ukraine et les velléités expansionnistes de la Russie, depuis pourtant des années, le Kremlin se préparait à agir de la sorte, comme le rappelle Cyril Brett.
Depuis le milieu des années 2000, il reconstitue d'autres moyens d'influence. Les médias, la propagande, il a également reconstitué l'outil d'influence économique en renforçant constamment les liens économiques, notamment en matière d'hydrocarbures et de minerais. Mais il a également reconstitué toute l'influence diplomatique dont est capable le réseau russe, qui mène depuis une dizaine d'années une véritable diplomatie de combat en Europe et aux marges de l'Europe.
Cette politique insidieuse avait entre autres pour but de rappeler les liens qui unissent la Russie avec ses anciens satellites à l'époque de l'Union soviétique. En Ukraine, Vladimir Poutine comptait ainsi s'appuyer sur la communauté russophone pour renverser le pouvoir. Mais comme le détaille Julien Théron, politiste spécialiste en conflit et sécurité internationale et enseignant à Sciences Po Paris, l'invasion de l'Ukraine a finalement eu l'effet inverse.
Cette espèce de mythe qu'on a ressassé depuis des années en disant « mais en fait, les russophones d'Ukraine, ils sont pro-russes, ils préféreraient être russes qu'ukrainiens », on comprend aujourd'hui que la chose est complètement fallacieuse et que les Ukrainiens, quelle que soit leur langue, sont ukrainiens. Il y a d'autres minorités linguistiques et ces minorités-là, comme la minorité russophone, aujourd'hui se battent en défense de leur État souverain et indépendant qui s'appelle l'Ukraine.
En lançant son offensive, Vladimir Poutine a raffermi le sentiment patriotique des Ukrainiens et il a dévoilé à ceux qui en doutaient encore la véritable nature de son régime, détaille le co-auteur avec Isabelle Mandreau du livre « Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre ».
Cette guerre montre à la fois le caractère autocratique et violent du régime russe en termes d'acquisition du renseignement, sa fragilité en termes de réalité militaire, sa fragilité aussi au regard de sa population puisque à l'occasion de cette guerre, le régime en a profité pour cadenasser encore plus qu'elle ne l'était la société russe en termes de médias et de liberté publique. Je crois que les masques sont tombés aujourd'hui et qu'il s'agit bien d'un régime autocratique.
Si cette guerre en Ukraine a dévoilé les véritables intentions de Vladimir Poutine, elle a aussi démontré les limites d'un pays qui était jusqu'alors présenté comme une grande puissance militaire. Un conflit qui, comme le dit Cyril Brett, a condamné Vladimir Poutine à mettre en jeu la survie de son propre régime.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet rfi.fr ou en podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.